Et nous allons prier pour que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que, comme nous l'avons entendu, ta parole a été préservée. Elle a été jusqu'à nous. Nous l'avons même sur nos chaises, Seigneur, en grande quantité ici. Et Seigneur, nous t'en remercions. Mais nous ne voulons pas juste la consulter, juste nous dire ben ça va nous faire un petit peu de bien, mais nous voulons vraiment qu'elle entre dans notre vie, qu'elle fasse son travail dans notre vie, qu'elle dirige notre vie, Seigneur, et que tu puisses par elle nous faire aller de l'avant. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur, merci pour le message que tu vas nous apporter ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment que nous ayons des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire et pas être comme nous avons vu cette vidéo où on passe à côté de l'essentiel. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus, amen. Alors, j'ai intitulé ce message de ce matin « Relève-toi ». Alors, il y a déjà quelques années, un journal nouveau était venu en France. Son titre, c'était « Rebondir ». C'est un journal qui traite encore de l'emploi. Et j'ai beaucoup aimé l'optimisme de ce titre. Nous allons nous approcher d'un homme qui a été encouragé à rebondir et un homme qui s'est relevé. Alors, moi, j'aime bien les quiz. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez de temps en temps « Question pour un champion », mais là, je vais vous faire un petit quiz. Et puis, bon, bah, si vous savez dès le début, ben, laissez un petit peu aux autres de se rattraper. Alors, on y va ? Top ! C'est un homme de Dieu du Nouveau Testament. Il s'est converti lors du premier voyage de Paul. Il est originaire de l'Istre. Sa mère s'appelle Eunice et est juive. Son père est grec. Si vous savez, hein, vous dites, il sera un fidèle compagnon de Paul. Paul l'appelle mon enfant et lui adressera deux épîtres. Timothée. Voilà, bravo. Alors, avant de lire deux passages dans les épîtres adressés à Timothée, nous allons nous approcher, il faut dire, de cet homme qui est un peu hors du commun. Il faut dire qu'il est très difficile de suivre Timothée chronologiquement, mais nous pouvons quand même décrire quelques grandes étapes de sa vie. Alors Paul, lors de son premier voyage, passera par la ville de Lystre, qui se trouve en Turquie actuelle. Et Timothée entendra certainement parler de la guérison d'un homme impotent des deux pieds. Ce sera Paul qui priera pour cet homme et cet homme va être guéri. Il assistera peut-être aussi à la lapidation de Paul. Les gens vont essayer de lapider Paul et puis ils vont croire qu'il va être mort. Et Paul en réchappera. Tout ça nous est raconté dans Actes 14, versets 8 à 19. Entre le premier et le deuxième voyage de Paul, on voit que Timothée a reçu vraiment quelque chose et a été vraiment changé, si bien que les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Acte 16, verset 2. Il va y avoir un deuxième voyage, le deuxième voyage de Paul, et il va repasser dans cette ville de Lystre. Et c'est là que Timothée va être appelé par Dieu et que les anciens vont prier pour lui. Et c'est là qu'il commencera vraiment son ministère, 1 Timothée 4, verset 14. Et pour ne pas scandaliser les Juifs, parce que Timothée était juif par sa mère, il sera circoncis. Acte 14, verset 16, verset 3. Et Timothée va directement partir avec une petite équipe, avec Paul et Silas, et ils seront, tenez-vous bien, les premiers à annoncer l'évangile en Europe. Merveilleux, hein? Et ça, je trouve, c'est merveilleux. Cela nous est raconté. Timothée va aller en Europe. Il annoncera l'évangile et puis après Timothée va rester avec Silas à Béréie, c'est dans le nord de la Grèce. Et cela pour fortifier les frères, acte 17, verset 14. Et plus tard, Paul l'enverra à l'église de Corinthe pour y mettre de l'ordre. On peut douter du succès de sa mission, car ce sera pour finir Tite qui sera envoyé à sa place. Nous trouvons tout cela dans 1 Corinthiens 4, verset 17, 2 Corinthiens, verset 7, chapitre 7, verset 5 et 6. Ensuite, Paul l'enverra avec Eraste en Macédoine, acte 19, verset 22. Tenez-vous bien, il fera encore partie du troisième voyage avec Paul. Alors on voit qu'ils se connaissent vraiment, acte 20, verset 4. Et lorsque Paul sera emprisonné lors de son dernier voyage, lorsqu'il sera à Rome, on voit que Timothée est encore là. C'est dit dans Philippiens 1:1. Timothée, on ne sait pas quand, mais va être arrêté et puis il va être relâché. C'est Hébreux 13, verset 23 qui le dit. Et finalement, il sera responsable de l'église d'Éphèse, 1 Timothée 1, verset 3. Alors, une ancienne tradition dit qu'il continuera à diriger l'église d'Éphèse et qu'il mourra en martyr à Éphèse. Alors, moi, quand je me suis approché de cet homme, je me suis dit, mais en fait, l'image de Timothée est loin de l'image que nous avons généralement d'un Timothée qui est un peu mièvre, qui n'a pas beaucoup de personnalité. Nous rencontrons un homme qui a vraiment beaucoup voyagé pour annoncer l'Évangile, un homme aussi qui a su prendre ses responsabilités. Et aucun autre compagnon de Paul n'a été autant complimenté que lui. Paul dira de lui qu'il travaille comme lui à l'œuvre du Seigneur, qu'il est un homme qui encourage et qu'il a été fidèle à son enseignement. Vraiment, il souligne la loyauté de Timothée. Et nous allons lire deux passages. Alors, comme il y a deux épîtres, j'ai pris juste un cours dans la première, puis un dans la deuxième épître. Nous allons lire d'abord 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 et 12. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Et 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Alors nous allons essayer de répondre à cette question, comment rebondir, comment se relever. J'ai partagé ce message en trois points. Les causes, c'est-à-dire celles qui font tomber, retrouve les bonnes bases, prends les bons appuis. Alors d'abord, les causes celles qui font tomber, Timothée va rencontrer des difficultés. D'abord, on peut dire la lassitude. Timothée commencera son ministère très tôt. Il est jeune, on situe qu'il a entre 18 et 20 ans. Il aura environ 35 ans lorsqu'il recevra la deuxième épître de Paul. Et ces 15 ans environ de travail l'ont probablement un peu usé. Annoncer l'Évangile encore, et puis avec toujours de l'opposition, c'est devenu peut-être pour lui un peu fatigant. Il est probablement lassé, voire un peu découragé devant l'opposition qu'il rencontre. Une autre cause, ça va être l'échec. Timothée est envoyé à l'église de Corinthe, une église qui a beaucoup de difficultés. L'Église est tellement divisée que, imaginez-vous, que certains frères, certaines sœurs sont en procès les uns contre les autres. Et cela dans l'Église même. Paul n'a pas peur de dire la vérité. Il dit, mais il y a une telle débauche dans cette Église qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Le repas du Seigneur est pris d'une façon qui nous scandaliserait aujourd'hui. Imaginez que votre pasteur, Patrice, dise que la semaine prochaine, il va y avoir le repas de la Sainte-Cène, et puis que chacun arrive avec ses cabas et sa nourriture, que chacun mange à n'en plus pouvoir, et puis bien entendu que le vin coule à flot, que certains sont complètement ivres. Et puis c'est comme ça que cela se passait à Corinthe. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Alors c'est clair que ça donne à réfléchir. Cette situation qui est à Corinthe est vraiment alarmante. Et Paul lui-même n'est plus le bienvenu. Il dit dans 1 Corinthiens 4, versets 18 à 19, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. » Et on voit que dans cette église, que l'orgueil est rentré dans beaucoup de cœurs. Et Timothée va être justement envoyé dans cette église. Et il essayera de redresser la barre, mais malgré le soutien de Paul, ce sera l'échec. Un échec qu'il devra digérer lui-même. Difficile, des fois, à reprendre l'élan. Timothée passera aussi par l'épreuve, il ira en prison. Il ne va pas en prison pour un méfait, pas parce qu'il aurait volé ou parce qu'il aurait fait du mal, mais il a été en prison parce qu'il a annoncé l'évangile. C'est comme nous l'avons dit, c'est une situation qui existe encore dans certains pays aujourd'hui, où des chrétiens, dès qu'ils annoncent quelque chose qui est différent de l'idée de l'État, sont mis en prison, voire mis à mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus injuste que d'être mis en prison, peut-être même de perdre son travail à cause de l'Évangile? Alors je crois que chacun ici peut s'identifier à lui. Tu peux être là de ta vie chrétienne, car tu trouves qu'elle ne évolue pas comme tu le souhaiterais. Les jours ressemblent aux jours précédents. Tu aimerais voir des choses évoluer. Et tu fais le constat, il n'y a pas beaucoup de grandes choses qui se passent dans ta propre vie. Tu as peut-être connu l'échec dans ta vie personnelle, sentimentale, quelque chose qui n'a pas été comme tu l'aurais voulu, dans ta vie professionnelle, ou peut-être même dans l'Église. Tu n'as vraiment pas envie de revivre cela. Tu passes peut-être par une épreuve qui est un véritable tunnel. Dernièrement, on a passé par le Gothard. Le Gothard, c'est plus de 16 kilomètres de où on est dans le tunnel. Et c'est long. Même en voiture, c'est long. Ça peut nous arriver des moments où ça dure, puis on se dit, mais Seigneur, combien de temps ça va encore durer? Alors la question que nous allons nous poser, mais quelles sont les pistes pour que tu puisses vraiment te relever? Et nous allons les découvrir tout en ne restant que dans les deux épîtres de Timothée. Alors nous arrivons au deuxième point, retrouve les bonnes bases. Fuis ces choses, c'est-à-dire fuis les passions de la jeunesse, de Timothée 2, verset 22. Fuis les mauvaises passions qui t'amène au péché. Il faut être clair, il faut parler du péché. Le péché te sépare de Dieu. Et la bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est que Jésus est venu et est mort sur la croix pour tes péchés, afin que tu sois pardonné, que tu puisses retrouver la communion avec Dieu. Et tu peux ce matin lui dire, Seigneur, je me rends compte ce matin qu'en fait que je ne suis pas tout net, qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas, et que tu peux lui dire, J'aimerais vraiment te rencontrer personnellement. J'aimerais vraiment que tu pardonnes mon péché. Je t'apporte mes erreurs. Je t'apporte le mal que j'ai fait. Je te demande pardon. Et je te prie que tu entres dans ma vie, que tu me donnes un nouveau départ. Et Dieu le fera ce matin même. Il ne le fera pas demain ni après-demain. Il le fera, bien sûr, plus tard, mais il peut le faire ce matin même. Tu as rendez-vous avec Dieu. Le but de la parole de Dieu est clair. 1 Timothée 2, verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et quand je lis ce 1 Timothée 2, 8, quand je lis ce verset, je trouve que le critère est vraiment élevé. Tu n'y arriveras pas si tu ne comptes que sur tes propres forces. Tu as besoin de la grâce de Dieu, de venir, de revenir sans arrêt vers lui pour lui dire, ben écoute Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux encore m'approcher de toi et être pardonné pour le mal que j'ai fait. Tu peux faire vraiment cette prière, je veux vraiment vivre dans la vérité, libéré du péché qui m'assaille et vivre dans la paix que tu promets. Garde le bon dépôt. 2 Timothée 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et moi, je t'encourage vraiment à la lire, à la digérer, à l'intégrer vraiment dans ta vie. Et j'aime à le dire, tu ne peux pas faire un seul repas pour toute une semaine. Même si tu mangeais à fond aujourd'hui, que tu te gaverais à n'en plus pouvoir, quelques jours plus tard, tu aurais vraiment faim. Je ne parle pas jusqu'au dimanche prochain. Et je crois que c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si tu écoutes un bon message, que tu te nourris le dimanche matin, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait vraiment plus dans ta vie. Tu es appelé à être nourri de la parole de Dieu. En Timothée 4, verset 13, Paul dit à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Lis la Bible, imprègne-toi de la parole de Dieu. C'est important que tu aies des connaissances qui te sont personnelles. Pas les connaissances d'un autre, mais tes connaissances à toi, celles que tu as apprises de la parole de Dieu. Elles te permettent de connaître la vérité. Et j'aime à le dire, la parole de Dieu, c'est dommage que je n'ai pas un bâton, mais vous allez comprendre. La parole de Dieu, c'est de la dynamite. C'est vraiment comme si tu avais un bâton de dynamite dans la main. Lorsque tu t'approches sincèrement d'elle, elle ne te laisse pas inactif. Elle te pousse vraiment comme un piston à aller plus loin. 2 Timothée 4, verset 4, Paul dit à Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion. » Autrement dit, « Annonce l'évangile chaque fois que tu en as l'occasion. » N'attends pas d'être quelqu'un de diplômé, d'être un évangéliste avec un papier d'une école biblique ou quelque chose comme ça. Non, n'attends pas cela. Vas-y seulement, va avec ce que Dieu t'a donné. Dieu utilisera ton propre témoignage avec ce que tu as vécu avec la parole de Dieu. Et ça, c'est important qu'il y ait une relation entre toi et la parole de Dieu. En Timothée 6, verset 20, « Garde le bon dépôt en évitant les discours vains et profanes. » Quand on lit Timothée, on voit que lui-même aura beaucoup de difficultés avec les faux docteurs qui, à l'époque, annonçaient de fausses doctrines. En Timothée 4, verset 1 à 3, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi » pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Un peu plus loin, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. J'aimerais le dire, ce passage est d'actualité. Après mai 68, la liberté sexuelle hors mariage est devenue normale. Cela ne choque plus. Aujourd'hui, il faut le dire, certains régimes alimentaires, quand on voit la télévision ou la radio, certains régimes alimentaires sont tendance. C'est à la mode. Alors là, je ne parle pas de régimes médicaux, de régimes où l'on ne doit pas manger certains aliments parce que ça fait du mal pour notre personne. Mais là, je parle de conviction afin d'être dans le vent, d'être dans la mode. Malheureusement, il faut le dire, ces courants venant du monde ont tendance à entrer dans l'Église. Ce qui était scandaleux il y a quelques années devient petit à petit une nouvelle norme. C'est normal, on tolère. Alors, comment vas-tu tenir la route si tu ne connais pas la parole de Dieu? Ça, c'est une question qui est importante. Tu as besoin de la connaître pour répondre lorsque tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire quelque chose qui est un peu farfelu et puis que tu devras lui répondre, mais non, ce que tu dis, c'est pas exact. Ce que tu vis actuellement n'est pas bon pour toi. Tu es appelé, je suis appelé à prendre position. C'est ta responsabilité et tu ne peux pas te taire. Il faut que tu oses dire à quelqu'un qui est hors norme, tu lui dis, écoute, j'aimerais te dire, avec l'amour bien entendu, j'aimerais te dire, ce que tu vis là, ce n'est pas bon pour toi. Il y a une voie qui est meilleure. Et ça, c'est si tu connais vraiment la parole de Dieu, tu pourras lui dire, il y a ce verset qui est là pour toi, qui va t'encourager, qui va te dire, ça c'est la bonne chose qu'il y a pour toi, que tu puisses avancer. Troisième point, prends les bons appuis. Alors comme un sauteur dans l'athlétisme, prends les bons appuis. Ranime la flamme de ton don. Timothée a été particulièrement béni lorsque Paul et les anciens ont prié pour lui. Alors tu me diras, il y a peu de gens qui ont prié comme ça pour moi. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que chacun ici a reçu un don ou plusieurs dons en particulier. Ce que tu sais déjà faire, et je suis sûr que chacun ici sait faire des choses particulières, mêlés déjà au service de l'œuvre du Seigneur. Et moi, je suis toujours émerveillé. Nous visitons plusieurs églises et je suis toujours émerveillé de voir des gens qui ont des dons merveilleux et puis qui me dépassent. Je ne suis pas jaloux. Au contraire, je me dis, mais c'est super. Et quand je vois notre ami pianiste là, que nous connaissons, ça me fait plaisir de le voir au piano. Je me dis, c'est super, je ne peux pas le remplacer. Parce que si vous me mettez au piano, je suis sûr qu'au bout de quelques minutes, il n'y a plus personne dans la salle. C'est comme ça. C'est comme ça, chacun a reçu des dons différents. En Timothée 4, versets 14 à 15, il est écrit, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Et je crois que la meilleure façon de tuer un don est de dire que celui-ci est tout à fait normal, que tout le monde peut le faire. De le négliger, de faire comme si c'était rien. Moi, j'aimerais le dire, et j'aimerais le dire, c'est faux. C'est faux. Personne ici a reçu tous les dons. Chacun ici a reçu des choses particulières. Et la seule chose que tu as à faire, et c'est là devant Dieu, de dire, moi je sais faire ça. Je sais faire des petits gâteaux, je sais faire, je sais pas, peut-être vous, dans votre esprit, vous dites, moi je sais faire ça, je sais chanter. Il y a celui qui est à la sono, qui sait faire la sono, au projecteur qui sait faire. Je mets au service ce que Dieu m'a donné et je crois que c'est important pour l'œuvre de Dieu. Dépasse-toi. On le sait, Timothée était de nature timide. Paul lui dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. En Timothée 6, verset 11, rajoute, « Pour toi, homme de Dieu, » il s'adresse à Timothée, « recherche la foi. Tu es, je suis appelé à vivre par la foi. » Et c'est la foi qui te pousse à accomplir des choses que tu n'arriverais pas à faire toi-même, à vraiment te dépasser. Et là, tu rencontreras toujours des défis. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu les ignores, et ça, c'est la chose la plus facile, ou soit tu te dis, ben, j'y arriverai, mais avec l'aide de Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas de honte à dire au Seigneur, ben, là, je suis devant un truc qui est trop grand pour moi, mais je te prie que tu viennes à mon secours. Au secours, Seigneur. Et Dieu va te donner une paix qui va te dépasser, puis que tu pourras le faire. Tu pourras faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait d'habitude. Et il te donnera aussi le courage pour témoigner. Témoigner dans des endroits où tu n'es pas forcément à l'aise. Par exemple, dans la rue. C'est pas facile d'aller dans la rue avec un traité et puis d'annoncer l'évangile. Je peux vous le dire, pour moi, c'est pas dans ma nature. Pour moi, c'est difficile. J'ai une belle-mère, la maman de mon épouse. Alors, elle, c'est la Ferrari de l'évangélisation dans la rue. Elle parle peu le français, elle parle l'espagnol, mais elle n'a pas peur d'aller vers les gens et annoncer l'évangile. C'est normal. Pour elle, c'est normal. Que ce soit dans les bus, les trams, à l'arrêt du bus, « Bonjour madame, bonjour monsieur, Jésus vous aime. » Je suis ébahi. Pour elle, c'est facile. Mais c'est pas facile d'être, disons, d'aller devant les gens, puis d'être accepté ou rejeté. Comme dit Paul, n'ayez pas, donc pas honte du témoignage à rendre à ton Seigneur. Dieu te donnera la force, l'amour, la sagesse qui te manque. Tu as besoin vraiment de ces qualités qui te sont données par Dieu pour annoncer l'évangile. Tu as besoin vraiment d'un amour et une sagesse qui te dépassent. Et j'aimerais juste donner un petit témoignage qui s'est passé il y a déjà quelques années. Nous faisions de l'évangélisation près de la gare de Cornavin à Genève. C'était l'été. Et il y a un parc qui est derrière. Je me suis approché d'un homme un peu plus âgé que moi, mais on voyait qu'il n'avait plus rien. Des ongles qui n'étaient pas coupés depuis longtemps, une odeur qu'on peut imaginer. J'ai pu lui parler de l'évangile. On a eu un très bon contact, étonnamment. Il avait le temps de m'écouter. Il aimait aussi être écouté. J'ai pu prier pour lui. Je suis sûr qu'il y a une graine qui a été plantée. Des fois, c'est des choses qui sont toutes simples comme cela, qui montrent que l'évangile est vraiment pour les autres, pour chacun de nos concitoyens. Tu es appelé à être un combattant pour l'évangile. Je suis appelé à être un combattant pour l'évangile. N'aie pas peur de souffrir. Les échecs passés de Timothée l'ont peut-être un peu refroidi. Dans 2 Timothée 1:8, Paul n'hésite pas à lui dire « Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Et quand on lit ces deux épîtres, on voit qu'il y a vraiment une relation entre Paul et Timothée qui est très proche. Paul lui ouvre son cœur comme peut-être jamais dans ses autres épîtres. Et il raconte à son ami Timothée toutes les souffrances qu'il endure. Et il raconte de ceux qui l'ont abandonné. Et la liste est longue. Seulement dans ces deux épîtres, il y a Hyménée, Alexandre, tous ceux qui sont en Asie, on ne sait pas le nombre, entre autres Phygèle et Hermogène, et Démas, et sans oublier Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal. J'aimerais te dire, lorsque tu avances dans l'évangile, sache que tu rencontres des oppositions. C'est normal. Paul les rencontrera même au travers de chrétiens. C'est une véritable souffrance que tu peux rencontrer aussi. Et la meilleure chose que tu peux faire, si tu as été blessé, si on t'a fait du mal, c'est de leur pardonner. Cela ne veut pas dire de leur donner raison, mais de choisir de leur pardonner et de continuer à prier pour eux et surtout à les bénir. Seul Dieu peut t'aider dans cette tâche. Souviens-toi d'une chose, c'est que tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite, et que Dieu, dans sa miséricorde, utilise des gens imparfaits, des gens imparfaits dont tu fais partie. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu continue à les utiliser. Et ça, ça me réjouit, comme il le fait avec toi-même. Je me souviens d'un homme de Dieu qui m'a fait du mal par le passé et qui habite près de l'autoroute Lausanne-Genève. Je dis quasiment chaque fois que je passe, je sais à quelle hauteur est sa maison, chaque fois que j'arrive à cette hauteur, ben, je le bénis. Je dis, ben, Seigneur, bénis-le. Et je sais que Dieu le bénit et Dieu va continuer à le bénir. Et ça, c'est un changement, c'est une façon de vivre, c'est-à-dire d'être en bénédiction pour l'autre. Paul continue en parlant des persécutions vécues. Il parle aussi quand il a été lapidé, laissé pour mort. Alors c'est clair que ce n'est pas des choses que nous connaissons ici aujourd'hui. Mais cependant, on peut être attaqué à l'extérieur par des gens qui nous veulent du mal, parce que nous sommes chrétiens. Je le vis par exemple au travail, où une personne est opposée à moi, parce que elle sait que je suis chrétien. Il y a des puissances derrière. C'est des hommes, des femmes qui te blesseront. Je pense qu'il faut suivre ce que Paul dit à Timothée, combat le bon combat, et de refuser ces paroles au nom de Jésus, de dire, ces paroles, je les laisse, je les refuse, je ne les accepte pas. Alors en conclusion, Timothée est arrivé à un moment où il avait besoin d'être encouragé, il avait vraiment besoin d'aller de l'avant. Je t'en conjure ce matin, ne reste pas arrêté par quoi que ce soit. Ne sois pas arrêté par quoi que ce soit. Garde le bon dépôt. Lis ta Bible. Utilise vraiment la dynamite que tu as entre tes mains. Ranime ta foi. Ranime ta foi que si tu as des défis devant toi, tu puisses dire, ok, cette fois j'ai compris, je vais aller de l'avant. Je saisis la balle au bon, je vais de l'avant. Ranime les dons que tu as reçus. Tu as reçu des dons. Regarde à toi-même, tu dis, mais moi je sais faire ça, je sais faire ça. Alors je peux aller vers Patrice, je peux aller vers Paul, puis je dis, mais écoute Paul, écoute Patrice, je sais faire ça. Comment je peux le faire dans l'Église? Ils te répondront certainement, je suis sûr. N'aie pas peur de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition, mais appuie-toi vraiment sur Dieu. J'aimerais te laisser un dernier passage que j'ai fait exprès de mettre au singulier. Là, je trouve que c'est des fois plus percutant. 2 Timothée 2, versets 12 à 13. Si tu persévères, tu règneras aussi avec lui. Un peu plus loin. Si tu es infidèle, il demeure fidèle. Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il sera avec toi. Il sera avec toi lorsque tu avanceras dans tes dons, lorsque tu annonceras l'Évangile. Il sera à tes côtés, il sera pour t'appuyer et il le fera mieux que quiconque. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci pour ce personnage de Timothée, Seigneur, où on voit que c'est un homme qui avait des... J'aime pas le mot faiblesse, mais qui avait des difficultés, mais que tu as utilisées et que tu as continué à utiliser. Et Seigneur, c'est ce que tu veux faire avec chacun de nous. Seigneur, tu veux que nous soyons vraiment en plein dans la cible, au centre dans la cible, que nous puissions vraiment avancer, Seigneur, et être vraiment en bénédiction pour celui que nous allons rencontrer aujourd'hui, mais aussi dans les jours qui suivent. Seigneur, que nous soyons vraiment des témoins de ce que tu fais dans nos vies, que tu utilises les dons de chacun, Seigneur. Seigneur, qu'il n'y ait ici aucun don qui dorme, Seigneur, utilise les dons de ton Église, de ton peuple. Utilise tes dons, utilise les dons de chacun, utilise mes dons, Seigneur, parce que c'est pour cela que tu nous as créés, pour te glorifier. Nous voulons te entrer dans le chemin que tu as placé pour nous, pour que nous puissions vraiment te glorifier, Seigneur, afin que tu aies du plaisir à être à nos côtés, au nom de Jésus. Amen.